Alexandre Pouchkine, Kapitanskaya Dochka, la fille du capitaine, chapitre 1er, le sergent aux gardes. Mon père, André Pietrovitch Grinev, après avoir servi dans sa jeunesse sous le comte Munich, avait quitté l'état militaire en 1700 avec le grade de premier major. Depuis ce temps, il avait constamment habité sa terre du gouvernement de Simbirsk, où il épousa Mademoiselle Avdotia, première fille d'un pauvre gentilhomme du voisinage. Des 9 enfants issus de cette union, je survécus seul. Tous mes frères et sœurs moururent en bas âge. J'avais été inscrit comme sergent dans le régiment Siemienowski par la faveur du major de la garde, le prince B, notre proche parent. Je fus censé être en congé jusqu'à la fin de mon éducation. Alors on nous élevait autrement qu'aujourd'hui. Dès l'âge de 5 ans, je fus confié au piqueur Savelitch, que sa sobriété avait rendu digne de devenir mon menin. Grâce à ses soins, vers l'âge de 12 ans, je savais lire et écrire et pouvais apprécier avec certitude les qualités d'un lévrier de chasse. À cette époque, pour achever de m'instruire, mon père prit à gage un Français, M. Beaupré, qu'on fit venir de Moscou avec la provision annuelle de vin et d'huile de Provence. Son arrivée déplut fort à Savelitch. Il semble, grâce à Dieu, murmurait-il, que l'enfant était lavé, peigné et nourri. Où avait-on besoin de dépenser de l'argent et de louer un moussier, comme s'il n'y avait pas assez de domestiques dans la maison? Beaupré, dans sa patrie, avait été coiffeur, puis soldat en Prusse, puis il était venu en Russie pour être utchitel, sans trop savoir la signification de ce mot. C'était un bon garçon, mais étonnamment distrait et étourdi. Il n'était pas, suivant son expression, ennemi de la bouteille, c'est-à-dire, pour parler à la russe, qu'il aimait à boire. Mais comme on ne présentait chez nous le vin qu'à table et encore par petits verres, et que de plus dans ces occasions on passait l'utchitel, mon beau-père habitua bien vite à l'eau de Virus et finit même par la préférer à tous les vins de son pays comme bien plus stomachique. Nous devînmes de grands amis, et quoique, d'après le contrat, il se fût engagé à m'apprendre le français, l'allemand et toutes les sciences, il aima mieux apprendre de moi à babiller le russe tant bien que mal. Chacun de nous s'occupait de ses affaires. Notre amitié était inaltérable et je ne désirais pas d'autre mentor. Mais le destin nous sépara bientôt et ce fut à la suite d'un événement que je vais raconter. Quelqu'un raconta en riant à ma mère que Beaupré s'enivrait constamment. Ma mère n'aimait pas à plaisanter sur ce chapitre. Elle se plaignit à son tour à mon père, lequel, en homme expéditif, manda aussitôt cette canaille de Français. On lui répondit humblement que le moussier me donnait une leçon. Mon père accourut dans ma chambre. Beaupré dormait sur son lit du sommeil de l'innocence. De mon côté, j'étais livré à une occupation très intéressante. On m'avait fait venir de Moscou une carte de géographie qui pendait contre le mur sans qu'on s'en servît et qui me tentait depuis longtemps par la largeur et la solidité de son papier. J'avais décidé d'en faire un cerf-volant et, profitant du sommeil de Beaupré, je m'étais mis à l'ouvrage. Mon père entra dans l'instant même où j'attachais une queue au cap de Bonne-Espérance. À la vue de mes travaux géographiques, il me secoua rudement par l'oreille, s'élança près du lit de Beaupré et, réveillant sans précaution, il commença à l'accabler de reproches. Dans son trouble, Beaupré voulut vainement se lever. Le pauvre utchitel était ivre-mort. Mon père le souleva par le collet de son habit, le jeta hors de la chambre et le chassa le même jour à la joie inexprimable de Savelitch. C'est ainsi que se termina mon éducation. Je vivais en fils de famille, né de Rossi, m'amusant à faire tourbiller les pigeons sur les toits et jouant au cheval fondu avec les jeunes garçons de la cour. J'arrivais ainsi jusqu'au-delà de 16 ans. Mais à cet âge, ma vie subit un grand changement. Un jour d'automne, ma mère préparait dans son salon des confitures au miel, et moi, tout en me léchant les lèvres, je regardais le bouillonnement de la liqueur. Mon père, assis près de la fenêtre, venait d'ouvrir l'almanach de la cour qu'il recevait chaque année. Ce livre exerçait sur lui une grande influence. Il ne le lisait qu'avec une extrême attention, et cette lecture avait le don de lui remuer prodigieusement la bile. Ma mère, qui savait par cœur ses habitudes et ses bizarreries, tâchait de cacher si bien le malheureux livre que des mois entiers se passaient sans que l'almanach de la cour lui tombât sous les yeux. En revanche, quand il lui arrivait de le trouver, il ne le lâchait plus durant des heures entières. Ainsi donc, mon père lisait l'almanach de la cour en haussant fréquemment les épaules et en murmurant à demi-voix. « Général, il a été sergent dans ma compagnie, chevalier des ordres de la Russie. Y a-t-il si longtemps que nous ?» Finalement, mon père lança l'almanach loin de lui sur le sofa et resta plongé dans une méditation profonde, ce qui ne présageait jamais rien de bon. « Avdotia Vassilievna, » dit-il brusquement en s'adressant à ma mère, « quel âge a Petrusha ?» « Sa 17e petite année vient de commencer, » répondit ma mère. Petrusha est né la même année que notre tante Nastasia Gerasimovna a perdu un œil et que... « Bien, bien, » reprit mon père, « il est temps de le mettre au service. » La pensée d'une séparation prochaine fit sur ma mère une telle impression qu'elle laissa tomber sa cuillère dans sa casserole et des larmes coulèrent de ses yeux. Quant à moi, il est difficile d'exprimer la joie qui me saisit. L'idée du service se confondait dans ma tête avec celle de la liberté et des plaisirs qu'offre la vie de Saint-Pétersbourg. Je me voyais déjà officier de la garde, ce qui, dans mon opinion, était le comble de la félicité humaine. Mon père n'aimait ni à changer ses plans ni à en remettre l'exécution. Le jour de mon départ fut à l'instant fixé. La veille, mon père m'annonça qu'il allait me donner une lettre pour mon chef futur et me demanda du papier et des plumes. « N'oublie pas, André Petrovitch, » dit ma mère, « de saluer de ma part le prince B. Dis-lui que j'espère qu'il ne refusera pas ses grâces à mon Petrusha. » « Quelle bêtise !» s'écria mon père en fronçant le sourcil. « Pourquoi veux-tu que j'écrive au prince B ?»« Mais tu viens d'annoncer que tu daignes écrire au chef de Petrusha. »« Eh bien quoi ?»« Mais le chef de Petrusha est le prince B. Tu sais bien qu'il est inscrit au régiment Siemienovski. »« Inscrit ? Qu'est-ce que cela me fait, qu'il soit inscrit ou non ?» Petrusha n'ira pas à Pétersbourg. Qu'y apprendrait-il à dépenser de l'argent et à faire des folies? Non, 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 qu'il serve à l'armée, qu'il flaire la poudre, qu'il devienne un soldat et non pas un fainéant de la garde, qu'il use les courroies de son sac. Où est son brevet? Donne-le-moi. Ma mère alla prendre mon brevet, qu'elle gardait dans une cassette avec la chemise que j'avais portée à mon baptême, et le présenta à mon père d'une main tremblante. Mon père le lut avec attention, le posa devant lui sur la table et commença sa lettre. La curiosité me talonnait. « Où m'envoie-t-on, pensais-je, si c'est pas à Pétersbourg ?» Je ne quittais pas des yeux la plume de mon père qui cheminait lentement sur le papier. Il termina enfin sa lettre, la mit avec mon brevet sous le même couvert, ôta ses lunettes, m'appela et me dit Cette lettre est adressée à André Kinlovitch, mon vieux camarade et ami. Tu vas à Orenbourg pour servir sous ses ordres. » Toutes mes brillantes espérances étaient donc évanouies. Au lieu de la vie gaie et animée de Pétersbourg, c'était l'ennui qui m'attendait dans une contrée lointaine et sauvage. Le service militaire auquel un instant plus tôt je pensais avec délice me semblait une calamité. Mais il n'y avait qu'à se soumettre. Le lendemain matin, une kibitka de voyage fut amenée devant le perron. On y plaça une malle, une cassette avec un service à thé et des serviettes nouées pleines de petits pains et de petits pâtés, dernier reste des dorloteries de la maison paternelle. Mes parents me donnèrent leur bénédiction et mon père me dit « Adieu, Pierre, sers avec fidélité celui à qui tu as prêté serment. Obéis à tes chefs, ne recherche pas trop leurs caresses, ne sollicite pas trop le service, mais ne le refuse pas non plus. Et rappelle-toi le proverbe « Prends soin de ton habit pendant qu'il est neuf et de ton honneur pendant qu'il est jeune. » Ma mère, tout en larmes, me recommanda de veiller à ma santé et à sa vieille Lidge d'avoir bien soin du petit enfant. On me mit sur le corps un court touloupe de peau de lièvre et par-dessus une grande pelisse en peau de renard. Je m'assis dans la kibitka avec Savvy Ilitch et partis pour ma destinée en pleurant amèrement. J'arrivai dans la nuit à Sirbisk où je devais rester 24 heures pour diverses emplettes confiées à Savvy Ilitch. Je m'étais arrêté dans une auberge tandis que dès le matin Savvy Ilitch avait été courir les boutiques. Ennuyé de regarder par les fenêtres sur une ruelle sale, je me mis à errer par les chambres de l'auberge. J'entrai dans la pièce du billard et j'y trouvai un grand monsieur d'une quarantaine d'années, portant de longues moustaches noires, en robe de chambre, une queue à la main, une pipe à la bouche. Il jouait avec le marqueur, qui buvait un verre d'eau de vie, s'il gagnait et s'il perdait, devait passer sous le billard à quatre pattes. Je me mis à les regarder jouer. Plus leur partie se prolongeait et plus les promenades à quatre pattes devenaient fréquentes, si bien qu'enfin le marqueur resta sous le billard. Le monsieur prononça sur lui quelques expressions énergiques en guise d'oraison funèbre et me proposa de jouer une partie avec lui. Il me répondit que je ne savais pas jouer au billard. Cela lui parut sans doute fort étrange. Il me regarda avec une sorte de commisération. Cependant, l'entretien s'établit. J'appris qu'il se nommait Ivan Ivanovitch Zourine, qu'il était chef d'escadron dans les hussards, qu'il se trouvait alors à Simbirsk pour recevoir des recrues et qu'il avait pris son gîte à la même auberge que moi. Zourine m'invita à dîner avec lui, à la soldat, et, comme on dit, de ce que Dieu nous envoie. J'acceptai avec plaisir. Nous nous mîmes à table. Zourine buvait beaucoup et m'invitait à boire en me disant qu'il fallait m'habituer au service. Il me racontait des anecdotes de garnison qui me faisaient rire à me tenir les côtes et nous nous levâmes de table, devenus amis intimes. Alors il me proposa de m'apprendre à jouer au billard. « C'est, dit-il, indispensable pour des soldats comme nous. Je suppose, par exemple, qu'on arrive dans une petite bourgade. Que veux-tu qu'on y fasse? On ne peut pas toujours rosser les juifs. Il faut bien, en définitive, aller à l'auberge et jouer au billard. Et pour jouer, il faut savoir jouer. » Ces raisons me convainquirent complètement et je me mis à prendre ma leçon avec beaucoup d'ardeur. Zourine m'encourageait à haute voix. Il s'étonnait de mes progrès rapides et après quelques leçons, il me proposa de jouer de l'argent, ne fût-ce qu'une groche de copecs, non pour le gain, mais pour ne pas jouer pour rien, ce qui était d'après lui une fort mauvaise habitude. J'y consentis et Zourine fit apporter du punch. Puis il me conseilla d'en goûter, répétant toujours qu'il fallait m'habituer au service. Car, ajouta-t-il, quel service est-ce qu'un service sans ponche ? Je suivis son conseil. Nous continuâmes à jouer, et plus je goûtais de mon verre, plus je devenais hardi. Je faisais voler les billes par-dessus les bandes. Je me fâchais, je disais des impertinences au marqueur qui comptait les points. Dieu sait comment. J'élevais l'enjeu, enfin je me conduisais comme un petit garçon qui vient de prendre la clé des champs. De cette façon, le temps passa très vite. Enfin, Zourine jeta un regard sur l'horloge, posa sa queue et me déclara que j'avais perdu 100 roubles. Cela me rendit fort confus. Mon argent se trouvait dans les mains de Savéliitch. Je commençais à marmotter des excuses quand Zourine me dit « Oh, mon Dieu, ne t'inquiète pas, je puis attendre. » Nous soupâmes. Zourine ne cessait de me verser à boire, disant toujours qu'il fallait m'habituer au service. En me levant de table, je me tenais à peine sur mes jambes. Zourine me conduisit à ma chambre. Savéliitch arriva sur ses entrefaites. Il poussa un cri quand il aperçut les indices irrécusables de mon zèle pour le service. « Que t'est-il arrivé ? » me dit-il d'une voix lamentable. « Où t'es-tu rempli comme un sac ? Oh, mon Dieu ! Jamais un pareil malheur n'était encore arrivé. »« Tais-toi, vieux hibou !» lui répondis-je en bégayant. « Je suis sûr que tu es ivre, allez, va dormir. Mais avant, couche-moi. » Le lendemain, je m'éveillai avec un grand mal de tête. Je me rappelais confusément les événements de la veille. Mes méditations furent interrompues par Savéliitch, qui entrait dans ma chambre avec une tasse de thé. « Ben, tu commences de bonne heure à t'en donner, Piotr Andreïtch, » me dit-il en branlant la tête. « Hé, de qui tiens-tu ? Il me semble que ni ton père ni ton grand-père n'étaient des ivrognes. Il n'y a pas à parler de ta mère, elle n'a rien daigné prendre dans sa bouche depuis sa naissance excepté du kvass. Alors à quoi donc ? Qui donc la faute ? Au maudit moussier ! Il t'a appris de belles choses, ce fils de chien, et c'était bien la peine de faire d'un païen ton menin, comme si notre Seigneur n'avait pas eu assez de ses propres gens. » J'avais honte, je me retournai et lui dis « Va-t'en, Savéliitch, je ne veux pas de thé. » Mais il était difficile de calmer Savéliitch une fois qu'il s'était mis en train de sermonner. « Vois-tu, Piotr Andreïtch, ce que c'est que de faire des folies ? Tu as mal à la tête, tu ne veux rien prendre. Un homme qui s'enivre n'est bon à rien. Bois un peu de saumure de concombre avec du miel, ou bien un demi-verre d'eau de vie pour te dégriser. Qu'en dis-tu ? » Dans ce moment entra un petit garçon qui m'apportait un billet de la part de Zourine. Je le dépliai et lus ce qui suit. « Cher Piotr Andreïtch, fais-moi le plaisir de m'envoyer par mon garçon les 100 roubles que tu as perdus hier. J'ai horriblement besoin d'argent. Ton dévoué, Ivan Zourine. » Il n'y avait rien à faire. Je donnai à mon visage une expression d'indifférence, et m'adressant à Savéliitch, je lui commandai de remettre 100 roubles au petit garçon. « Comment pourquoi ? » me demanda-t-il tout surpris. « Je les lui dois, » répondis-je aussi froidement que possible. « Tu les lui dois ? » repartit Savéliitch dont l'étonnement redoublait. « Quand donc as-tu eu le temps de contracter une pareille dette ? C'est impossible. Fais ce que tu veux, Seigneur, mais je ne donnerai pas cet argent. » Je me dis alors que si, dans ce moment décisif, je ne forçais pas ce vieillard obstiné à m'obéir, il me serait difficile dans la suite d'échapper à sa tutelle. Lui jetant un regard hautain, je lui dis « Je suis ton maître. Tu es mon domestique. L'argent est à moi. Je l'ai perdu parce que j'ai voulu le perdre. Je te conseille de ne pas faire l'esprit fort et d'obéir quand on te commande. » Mes paroles firent une impression si profonde sur Savielitch qu'il frappa des mains et resta muet et immobile. « Mais que fais-tu là, comme un pieu ? » m'écriai-je avec colère. Savielitch se mit à pleurer. « Oh, mon père Piotr Andreïtch, balbutia-t-il d'une voix tremblante, « ne me fais pas mourir de douleur. Oh, ma lumière, écoute-moi, moi, vieillard, écris à ce brigand que tu n'as fait que plaisanter, que nous n'avons jamais eu tant d'argent. 100 roubles, Dieu de bonté, dis-lui que tes parents t'ont sévèrement défendu de jouer autre chose que des noisettes. » « Te tairas-tu ? » lui dis-je en l'interrompant avec sévérité. « Donne l'argent, je te chasse d'ici à coups de poing. » Savielitch me regarda avec une profonde expression de douleur et alla chercher mon argent. J'avais pitié du pauvre vieillard, mais je voulais m'émanciper et prouver que je n'étais pas un enfant. Zourine eut ses 100 roubles. Savielitch s'empressa de me faire quitter la maudite auberge. Il entra en m'annonçant que les chevaux étaient attelés. Je partis de Simbirsk avec une conscience inquiète et des remords silencieux, sans prendre congé de mon maître et sans penser que je dusse le revoir jamais. Chapitre 2. Le guide. Mes réflexions pendant le voyage n'étaient pas très agréables. D'après la valeur de l'argent à cette époque, ma perte était de quelque importance. Je ne pouvais m'empêcher de convenir avec moi-même que ma conduite à l'auberge de Simbirsk avait été des plus sottes, et je me sentais coupable envers Savielitch. Tout cela me tourmentait. Le vieillard se tenait assis dans un silence morne sur le devant du traîneau en détournant la tête et en faisant entendre de loin en loin une toux de mauvaise humeur. J'avais fermement résolu de faire ma paix avec lui, mais je ne savais par où commencer. Enfin, je lui dis « Alors, voyons, Savielitch, finissons-en. Faisons la paix. Je reconnais moi-même que je suis fautif. J'ai fait hier des bêtises et je t'ai offensé sans raison. Je te promets d'être plus sage à l'avenir et de le mieux écouter. Voyons, ne te fâche plus. Faisons la paix. » « Oh, mon père Piotr Andreïtch, » me répondit-il avec un profond soupir, « je suis fâché contre moi-même. C'est moi qui ai tort par tous les bouts. Comment ai-je pu te laisser seul dans l'auberge ? Mais que faire ? Le diable s'en est mêlé. L'idée m'est venue d'aller voir la femme du diacre qui est ma commère, et voilà, comme dit le proverbe, j'ai quitté la maison et je suis tombé dans la prison. Quel malheur ! Quel malheur ! Comment reparaître aux yeux de mes maîtres ? Que diront-ils quand ils sauront que leur enfant est buveur et joueur ? » Pour consoler le pauvre Savielitch, je lui donnai ma parole qu'à l'avenir, je ne disposerai pas d'un seul copec sans son consentement. Il se calma peu à peu, ce qui ne l'empêcha point cependant de grommeler encore de temps en temps en branlant la tête. « 100 roubles, c'est facile à dire !» J'approchais du lieu de ma destination. Autour de moi s'étendait un désert triste et sauvage, entrecoupé de petites collines et de ravins profonds. Tout était couvert de neige. Le soleil se couchait. Ma kibitka suivait l'étroit chemin, ou plutôt la trace, qu'avaient laissé les traîneaux de paysans. Tout à coup, mon cocher jeta les yeux de côté et s'adressant à moi, « Seigneur, dit-il en ôtant son bonnet, m'ordonnes-tu pas de retourner en arrière ? » Pourquoi cela? Ben, le temps n'est pas sûr, il fait déjà un petit vent. Vois-tu comme il roule la neige au-dessus? Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Eh, vois-tu ce qu'il y a là-bas? Le cocher montrait avec son fouet le côté de l'Orient. Je ne vois rien de plus que la steppe blanche et le ciel serein. Là, là, regarde, ce petit nuage. J'aperçus en effet sur l'horizon un petit nuage blanc que j'avais pris d'abord pour une colline éloignée. Mon cocher m'expliqua que ce petit nuage présageait un bourran. J'avais ouï parler des chasse-neige de ces contrées, et je savais qu'ils engloutissent quelquefois des caravanes entières. Savielitch, d'accord avec le cocher, me conseillait de revenir sur nos pas. Mais le vent ne me parut pas fort, et j'avais l'espérance d'arriver à temps au prochain relais. J'ordonnais donc de redoubler de vitesse. Le cocher mit ses chevaux au galop, mais il regardait sans cesse du côté de l'Orient. Et cependant, le vent soufflait de plus en plus fort. Le petit nuage devint bientôt une grande nuée blanche qui s'élevait lourdement, croissait, s'étendait et qui finit par envahir le ciel tout entier. Une neige fine commença à tomber et tout à coup se précipita à gros flocons. Le vent se mit à siffler, à hurler. C'était un chasse-neige. En un instant, le ciel sombre se confondit avec la mer de neige que le vent soulevait de terre. Tout disparut. « Malheur à nous, Seigneur !» s'écria le cocher. « C'est un bourran !» Je passai la tête hors de la kibitka. Tout était obscurité et tourbillon. Le vent soufflait avec une expression tellement féroce qu'il semblait en être abîmé. La neige s'amoncelait sur nous et nous couvrait. Les chevaux allaient au pas et ils s'arrêtèrent bientôt. « Mais pourquoi n'avances-tu pas ? » dis-je au cocher avec impatience. « Mais où avancer ? » répondit-il en descendant du traîneau. « Dieu seul sait où nous sommes maintenant. Il n'y a plus de chemin, tout est sombre. » Je me mis à le gronder, mais Savielitch prit sa défense. « Pourquoi ne l'avoir pas écouté ?» me dit-il avec colère. « Tu serais retourné au relais, tu aurais pris du thé, tu aurais dormi jusqu'au matin, l'orage se serait calmé et nous serions partis. Et pourquoi tant de hâte ? Si c'était pour aller se marier, passe !» Savielitch avait raison. Qu'y avait-il à faire ? La neige continuait de tomber. Un amas se formait autour de la kibitka. Les chevaux se tenaient immobiles, la tête baissée, et tressaillaient de temps en temps. Le cocher marchait autour d'eux, rajustant leur harnais, comme s'il eût eu autre chose à faire. Savielitch grondait. Je regardais de tous côtés dans l'espérance d'apercevoir quelque indice d'habitation ou de chemin, mais je ne pouvais voir que le tourbillonnement confus du chasse-neige. Tout à coup, je crus distinguer quelque chose de noir. « Oh là, un cocher !» m'écriai-je. « Qu'y a-t-il de noir là-bas ?» Le cocher se mit à regarder attentivement du côté que j'indiquais. « Dieu le sait, Seigneur, me répondit-il en reprenant son siège. « C'est pas un arbre, il me semble que cela se meut. Ça doit être un loup ou un homme. » Je lui donnai l'ordre de se diriger sur l'objet inconnu qui vint aussi à notre rencontre. En 2 minutes, nous étions arrivés sur la même ligne et je reconnus un homme. « Hola, brave homme !» lui cria le cocher. « Dis-nous, ne sais-tu pas le chemin ?»« Le chemin est ici, » répondit le passant. « Je suis sur un endroit dur, mais à quoi diable cela sert-il ? » ?»« Écoute, mon petit paysan, » lui dis-je, « est-ce que tu connais cette contrée ? Peux-tu nous conduire jusqu'à un gîte pour y passer la nuit ? Cette contrée, Dieu merci, répondit le passant, je l'ai parcourue à pied, en voiture, en long et en large. Mais vois quel temps, mais tout de suite on perd la route. Mieux vaut s'arrêter ici et attendre, peut-être l'ouragan cessera. Et le ciel sera serein, et nous trouverons le chemin avec les étoiles. Son sang-froid me donna du courage. Je m'étais déjà décidé, en m'abandonnant à la grâce de Dieu, à passer la nuit dans la steppe, lorsque tout à coup, le passant s'assit sur le banc qui faisait le siège du cocher. Oh, « grâce à Dieu, dit-il à celui-ci, une habitation n'est pas loin, tourne à droite et marche. »« Pourquoi irais-je à droite ?» répondit mon cocher avec humeur. « Où vois-tu le chemin ?»« Alors il faut dire, chevaux à autrui, harnais aussi, fouette sans répit. » Le cocher me semblait avoir raison. « En effet, dis-je au nouveau venu, pourquoi crois-tu qu'une habitation n'est pas loin ?»« Ben, le vent a soufflé de là, répondit-il, et j'ai senti une odeur de fumée, preuve qu'une habitation est proche. » Sa sagacité et la finesse de son odorat me remplirent d'étonnement. J'ordonnai au cocher d'aller où l'autre voulait. Les chevaux marchaient lourdement dans la neige profonde. La kibitka s'avançait avec lenteur, tantôt soulevée sur un amas, tantôt précipitée dans une fosse et se balançant de côté et d'autre. Cela ressemblait beaucoup au mouvement d'une barque sur la mer agitée. Servielitch poussait les gémissements profonds en tombant à chaque instant sur moi. Je baissai la tsinovka, je m'enveloppai dans ma pelisse et m'endormis, bercé par le chant de la tempête et le roulis du traîneau. J'eus alors un songe que je n'ai plus oublié et dans lequel je vois encore quelque chose de prophétique en me rappelant les étranges aventures de ma vie. Le lecteur m'excusera si je ne lui raconte, car il sait sans doute par sa propre expérience combien il est naturel à l'homme de s'abandonner à la superstition, malgré tout le mépris qu'on affiche pour elle. J'étais dans cette disposition de l'âme où la réalité commence à se perdre dans la fantaisie, aux premières visions incertaines de l'assoupissement. Il me semblait que le bourran continuait toujours et que nous errions sur le désert de neige. Tout à coup, je crus voir une porte cochère et nous entrâmes dans la cour de notre maison seigneuriale. Ma première idée fut la peur que mon père ne se fâchât de mon retour involontaire sous le toit de la famille et ne l'attribuât à une désobéissance calculée. Inquiet, je sors de ma kibitka et je vois ma mère venir à ma rencontre avec un air de profonde tristesse. « Ne fais pas de bruit, me dit-elle. Ton père est à l'agonie et désire te dire adieu. » Frappé d'effroi, j'entre à sa suite dans la chambre à coucher. Je regarde. L'appartement est à peine éclairé. Près du lit se tiennent des gens à la figure triste et abattue. Je m'approche sur la pointe du pied. Ma mère soulève le rideau et dit « André Pietrovitch, Petrusha est de retour. Il est revenu. En apprenant ta maladie, donne-lui ta bénédiction. » Je me mets à genoux et j'attache mes regards sur le mourant. Mais quoi ? Au lieu de mon père, j'aperçois dans le lit un paysan à barbe noire qui me regarde d'un air de galeté. Plein de surprise, je me retourne vers ma mère. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ? » m'écriai-je. « Ce n'est pas mon père. Pourquoi veux-tu que je demande sa bénédiction à ce paysan ?»« C'est la même chose, Petrusha, » répondit ma mère. « Celui-là est ton père assis, baise-lui la main et dis qu'il te bénisse. » Je ne voulais pas y consentir. Alors le paysan s'élança du lit, tira vivement sa hache de sa ceinture et se mit à la brandir en tous sens. Je voulus m'enfuir, mais je ne le pus pas. La chambre se remplissait de cadavres. Je trébuchais contre eux, mes pieds glissaient dans des mares de sang. Le terrible paysan m'appelait avec douceur en me disant « Ne crains rien, approche, viens que je te bénisse. » L'effroi et la stupeur s'étaient emparés de moi. En ce moment, je m'éveillais. Les chevaux étaient arrêtés. Savéliitch me tenait par la main. « Sors, Seigneur, me dit-il, nous sommes arrivés. »« Où sommes-nous arrivés ? » demandai-je en me frottant les yeux. « Au gîte. Dieu nous est venu en aide, nous sommes tombés droit sur la haie de la maison. » « Sors, Seigneur, plus vite et viens te réchauffer !» Je quittai la kibitka. Le bourran durait encore, mais avec une moindre violence. Il faisait si noir qu'on pouvait, comme on dit, se crever l'œil. L'homme nous reçut près de la porte d'entrée en tenant une lanterne sous le pan de son cafetan et nous introduisit dans une chambre petite mais assez propre. Une luchina l'éclairait. Au milieu étaient suspendues une longue carabine et un haut bonnet de cosaque. Notre hôte, cosaque du laïc, était un paysan d'une soixantaine d'années, encore frais et vert. Savéliitch apporta la cassette à thé et demanda du feu pour me faire quelques tasses dont je n'avais jamais eu grand besoin. L'hôte se hâta de le servir. « Où donc est notre guide ?» demandai-je à Savéliitch. « Ici, votre seigneurie !» répondit une voix d'en haut. Je levai les yeux sur la soupente et je vis une barbe noire et deux yeux étincelants. « Eh bien, as-tu froid ?»« Oh, comment n'avoir pas froid dans un petit cafetan tout troué ? J'avais un touloupe, mais à quoi bon m'en cacher ? Je l'ai laissé en gage hier chez le marchand d'eau de vie. Le froid ne me semblait pas vif. » En ce moment, l'autre entra avec le samovar tout bouillant. Je proposai à notre guide une tasse de thé. Il descendit aussitôt de la soupente. Son extérieur me parut remarquable. C'était un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne maigre, avec de larges épaules. Sa barbe noire commençait à grisonner. Ses grands yeux vifs ne restaient jamais tranquilles. Il avait dans la physionomie une expression assez agréable, mais non moins malicieuse. Ses cheveux étaient coupés en rond. Il portait un petit armagh déchiré et de larges pantalons tatars. Je lui offris une tasse de thé. Il en goûta et fit la grimace. « Faites-moi la grâce, votre seigneurie, me dit-il, de me faire donner un verre d'eau de vie. Le thé n'est pas notre boisson de cosaque. » J'accédai volontiers à son désir. L'hôte prit sur un des rayons de l'armoire un broc et un verre, s'approcha de lui, mais l'ayant regardé bien en face, « Hé, dit-il, te voilà de nouveau dans nos parages. D'où Dieu t'a-t-il amené ?» Mon guide cligna de l'œil d'une façon toute significative et répondit par le dicton connu. Le moineau volait dans le verger. Il mangeait de la graine de chanvre. La grand-mère lui jeta une pierre et le manqua. Et vous, comment vont les vôtres ? Comment vont les nôtres ? Répliqua l'hôtelier en continuant de parler proverbialement. On commençait à sonner les vêpres, mais la femme du pope l'a défendu. Le pope est allé en visite, et les diables sont dans le cimetière. « Tais-toi, notre oncle, riposta le vagabond. Quand il y aura de la pluie, il y aura des champignons, et quand il y aura des champignons, il y aura une corbeille pour les maîtres. Mais maintenant, il cligna de l'œil une seconde fois, remets ta hache derrière ton dos. Le garde forestier se promène. À la santé de votre seigneurie. » Et disant ces mots, il prit le verre, fit le signe de la croix et avala d'un trait son eau de vie. Puis il me salua et remonta dans la soupente. Je ne pouvais alors deviner un seul mot de ce jargon de voleur. Ce n'est que dans la suite que je compris qu'il parlait des affaires de l'armée et du laïc, qui venait seulement d'être réduite à l'obéissance après la révolte de 1772. Savielitch les écoutait parler d'un air fort mécontent et jetait des regards soupçonneux tantôt sur l'autre, tantôt sur le guide. L'espèce d'auberge où nous étions réfugiés se trouvait au beau milieu de la steppe, loin de la route et de toute habitation, et ressemblait beaucoup à un rendez-vous de voleurs. Mais que faire? On ne pouvait pas même penser à se remettre en route. L'inquiétude de Savielitch me divertissait beaucoup. Je m'étendis sur un banc. Mon vieux serviteur se décida enfin à monter sur la voûte du poêle. L'hôte se coucha par terre. Ils se mirent bientôt tous à ronfler, et moi-même, je m'endormis comme un mort. En m'éveillant le lendemain assez tard, je m'aperçus que l'ouragan avait cessé. Le soleil brillait. La neige s'étendait au loin comme une nappe éblouissante. Déjà, les chevaux étaient attelés. Je payai l'hôte qui me demanda pour mon écho une telle misère que Savielitch lui-même ne le marchanda pas, suivant son habitude constante. Ses soupçons de la veille s'étaient envolés tout à fait. J'appelai le guide pour le remercier du service qu'il nous avait rendu et dis à Savielitch de lui donner une demi-rouble de gratification. Savielitch fronça le sourcil. « Un demi-rouble ! » s'écria-t-il. « Pourquoi cela ? Parce que Dieu a dédié toi-même à l'amener à l'auberge ? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais nous n'avons pas un demi-rouble de trop. Si nous nous mettons à donner des pourboires à tout le monde, nous finirons par mourir de faim. » Il m'était impossible de disputer contre Savielitch. Mon argent, d'après ma promesse formelle, était à son entière discrétion. Je trouvais pourtant désagréable de pouvoir récompenser un homme qui m'avait tiré, sinon d'un danger de mort, au moins d'une position fort embarrassante. « Bien, dis-je avec sang-froid à Savielitch, si tu ne veux pas donner un demi-rouble, donne-lui quelqu'un de mes vieux habits. Il est trop légèrement vêtu. Donne-lui mon touloupe de peau de lièvre. » « Oh, pitié de moi, mon père, Piotr Andrievitch, s'écria-t-il, Savielitch. Qu'a-t-il besoin de ton tourloupe ? Il le boira, le chien, dans le premier cabaret. »« Ah, ceci, mon petit vieux, c'est plus ton affaire, dit le cabagomagon, que je te boive ou que je ne boive pas. Sa seigneurie me fait la grâce d'une pelisse de son épaule, c'est sa volonté de seigneur. Et ton devoir de serf est de ne pas rejamais, mais d'obéir. Tu ne crains pas Dieu, brigand que tu es, dit Savielitch d'une voix fâchée. Tu vois que l'enfant n'a pas encore toute sa raison, et te voilà tout content de le piller grâce à son bon cœur. Qu'as-tu besoin d'un touloupe de seigneur? Toi, tu ne pourrais même pas le mettre sur tes maudites grosses épaules. Je te prie de ne pas faire le bel esprit, dis-je à mon ménin. Aborde vite le touloupe. Oh, Seigneur mon Dieu, s'écria Savielitch en gémissant. Un touloupe en peau de lièvre et complètement neuf encore. À qui le donne-t-on? Un ivrogne en guenille. Cependant, le touloupe fut apporté. Le vagabond se mit à l'essayer aussitôt. Le touloupe, qui était déjà devenu trop petit pour ma taille, lui était effectivement beaucoup trop étroit. Cependant, il parvint à le mettre avec peine, en faisant éclater toutes les coutures. Savielitch poussa comme un hurlement étouffé lorsqu'il entendit le craquement des fils. Pour le vagabond, il était très content de mon cadeau. Aussi me reconduisit-il jusqu'à ma kibitka, et il me dit avec un profond salut, « Merci, votre seigneurie, que Dieu vous récompense pour votre vertu. De ma vie, je n'oublierai vos bontés. » Il s'en alla de son côté, et je partis du bien, sans faire attention aux bouderies de Savelitch. J'oubliai bientôt le bourran et le guide et mon touloupe en peau de lièvre. Arrivé à Orenbourg, je me présentai directement au général. Je trouvai un homme de haute taille, mais déjà courbé par la vieillesse. Ses longs cheveux étaient tout blancs. Son vieil uniforme, usé, rappelait un soldat du temps de l'impératrice Anne, et ses discours étaient empreints d'une forte prononciation allemande. Je lui remis la lettre de mon père. En lisant son nom, il me jeta un coup d'œil rapide. « Mon Dieu, dit-il, Yazib de Dang, André Petrovitch, était de Donache, et maintenant quel beau caillard de fils il a! Oh, le temps, le temps !» Il ouvrit la lettre et s'y mit à parcourir à demi-voix en accompagnant sa lecture de remarques. « Monsieur, j'espère que votre Excellence... »«
Qu'est-ce que c'est que ces cérémonies, fille ? Comment n'a-t-il pas de honte ? Sans doute la discipline avant tout, mais est-ce ainsi qu'on écrit à son vieux camarade ? Votre Excellence n'aura pas oublié. Et quand, sous feu le feldmaréchal Munich pendant la campagne, de même que nos bonnes parties de cartes... Bruder, il se souvient donc encore de nos anciennes Freudennes. Maintenant, parlons affaires. Je vous envoie mon espiègle, le tenir avec des gants de porc épic. Qu'est-ce que cela, gants de porc épic, ce doit être un proverbe russe. Qu'est-ce que c'est, tenir avec des gants de porc épic, reprit-il en se tournant vers moi. Oh, cela signifie, lui répondis-je avec l'air le plus innocent du monde, traiter quelqu'un avec bonté, pas trop sévèrement, lui laisser beaucoup de liberté. Voilà ce que signifie tenir avec des gants de porc épic. Je comprends. Et ne pas lui donner de liberté. Ah non, il paraît que gants de porc épic signifie autre chose. S'y joint son brevet. Où donc est-il ? Ah, le voici. L'inscrire au régiment de Siemianiovski. C'est bon, on fera ce qu'il faut. Me permet de vous embrasser sans cérémonie et ma vieux ami et camarade. Ah, enfin, il s'en est souvenu. Alors, mon petit père, dit-il après avoir achevé la lettre et mis mon brevet de côté, tout sera fait. Tu seras officier dans le régiment de... Et pour ne pas perdre de temps, va de demain dans le fort de Bielokorsk, où tu serviras sous les ordres du capitaine Mironov, un brave et honnête homme. Là, tu serviras véritablement et tu apprendras la discipline. Tu n'as rien à faire à Orenbourg. Les distractions sont dangereuses pour un jeune homme. Et aujourd'hui, je t'invite à dîner avec moi. Pas de mal en pis, pensais-je tout bas. À quoi cela m'aura-t-il servi d'être sergent aux gardes dès mon enfance ? Où cela m'a-t-il mené ? Dans le régiment de... et dans un fort abandonné sur la frontière des steppes kirghiz-kaïsak. Je dînais chez André Karlovitch en compagnie de son vieil aide-de-camp. La sévère économie allemande régnait à sa table, et je pense que l'effroi de recevoir parfois un hôte de plus à son ordinaire de garçon n'avait pas été étranger à mon prompt éloignement dans une garnison perdue. Le lendemain, je pris congé du général et partis pour le lieu de ma destination.